J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et aller dans le livre de Timothée. Et ce matin, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps, mais vous allez voir dans les diapos un numéro que vous pouvez texter pour des questions à la fin du message. Ne textez pas tout de suite, prenez le temps d'écouter parce que peut-être vos questions vont être répondues pendant le message, mais vous aurez l'opportunité d'envoyer de courtes questions. Envoyez pas un grand paragraphe d'un témoignage, j'aurai pas le temps de lire cela, mais j'espère donner un temps à la fin pour répondre à des questions puisqu'on va toucher un sujet, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler dans les Écritures, parce que dans les épîtres pastorales, on touche plusieurs sujets et angle précis dans le ministère pastoral de l'Église qu'on ne touche pas ailleurs ou qu'on, en tout cas, on agrandit, qu'on développe, qu'on le fait la semaine dernière avec le ministère des veuves, qu'on ne retrouve nulle part d'autre dans le Nouveau Testament, aussi développé de l'attention à prendre auprès des veuves. Et après avoir porté attention sur comment on prend soin des veuves, le devoir de la famille, de l'Église, qui sont les veuves qui vont être sur un rôle et non, et pourquoi, etc., et toute l'importance que les veuves ont aux yeux de l'Éternel, le Père Céleste, bien là, tout à coup, le regard de Paul se tourne maintenant vers les ouvriers et vers les anciens dans l'Église. Comment est-ce qu'on traite les veuves? Et maintenant, comment est-ce qu'on traite les anciens? Et tout particulièrement, certains qui vont même être rémunérés. Pourquoi? Comment qu'on gère tout cela? Comment qu'on gère avec eux dans des situations d'accusation? Comment qu'on gère avec eux s'il y en a qui devient dictatorial? Comment on gère avec eux si ça, etc.? Et comment les choisir? Et donc, on n'a pas tout ici, mais on a une parenthèse importante dans laquelle Paul nous instruit ici ce matin. Et c'est la beauté de faire un texte expositoire. Je crois que la majorité des pasteurs n'oseraient pas, tout de même s'ils sont rémunérés dans l'Église, oser toucher un texte qui parle de la rémunération des pasteurs. Il y aurait une petite gêne, peut-être. Mais la beauté d'exposer les Écritures, c'est d'enseigner tout ce qui s'y trouve dans un livre et d'avancer avec l'enseignement que Paul a donné dans un épître et d'y aller progressivement au complet et d'enseigner l'ensemble des Écritures. Et peut-être à mon rôle, je suis pas pasteur ici depuis 3 ou 4 ans, mais c'est dans ma 24e année, c'est plus aisé pour moi de parler de ces sujets-là, puisqu'on vit de la paix, de l'harmonie, du respect mutuel, de l'appréciation mutuelle. Et donc, c'est plus facile aussi dans ce cas-là de pouvoir en parler avec vous. Et certaines questions peut-être de votre vécu vont venir à votre pensée, des choses difficiles. Et je le mentionne tout de suite, je sais que certains viennent de plusieurs milieux, de différentes cultures, d'autres pays, de d'autres églises à l'extérieur, avant de vous joindre ici à l'église baptiste de Trois-Rivières, vous avez toutes sortes d'expériences. Certaines des belles expériences d'église, d'autres de moins belles. Certains avec des leaders qui ont pris soin de vous, qui étaient des honorables à Dieu, et d'autres qui étaient moins honorables, pour lesquels vous avez peut-être même des blessures, peut-être même des bris de confiance envers le leadership. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs à vivre cela. C'est tout à fait normal et humain lorsqu'on a été déçu, lorsqu'on a été menti, ou ce qu'on pensait que telle ou telle chose, ou qu'on a profité de nous, ou toutes sortes de situations, qu'il y ait des bris de confiance qui se fassent face au leader. Et j'espère ce matin, en regardant tout cela, que le Seigneur puisse d'une manière ou d'une autre contribuer à de la guérison à ce niveau-là, et de regarder ce que les Écritures ont à dire sur le sujet. Et souvent, il y a des bris de confiance, il y a des manques, parce que parfois aussi, il manque d'enseignement sur ce que la Bible donne comme rôle mutuel à l'Assemblée et au pasteur, et la redevabilité mutuelle qu'il y a entre chacun, pour que ça se fasse d'une façon qui honore Dieu, puisqu'on est, on l'a déjà mentionné la semaine dernière, une famille. Étant une famille, il y a un besoin de prendre soin les uns les autres, de veiller les uns sur les autres, d'avoir de la bonté, mais en même temps, de la discipline également. On aime moins ça, et pourtant, c'est là dans les Écritures. Et donc, c'est ce qu'on va prendre le temps de regarder ce matin. Et donc, vers la fin, si vous avez des questions qui ne sont pas répondues, des préoccupations, vous aurez l'occasion d'envoyer des courtes questions que j'aimerais prendre le temps de répondre à la fin du message, spontanément, pour aider. Dans la mesure du possible, peut-être je ne pourrai pas répondre à tous, mais je vais tenter de faire ce que je pourrai avec le temps qu'on aura devant nous et de considérer le temps pour y arriver également. Et donc, on est dans le chapitre 5. Et ce matin, bien évidemment, c'est un texte important dans le contexte où que dans beaucoup d'églises à travers l'Amérique du Nord, il y a de l'instabilité dans beaucoup de pays du monde. Et même lorsqu'il y a de la stabilité, ça ne veut pas dire que le leadership est sain. On est confronté à des églises qui ont des faux enseignements, des églises qui ont aussi des leaders des fois qui sont dictatoriales, qui deviennent finalement dans une église protestante évangélique, des petits papes. Et on n'a pas besoin du titre pour le faire. Il y a parfois dans des églises des gens qui s'élèvent avec des familles, des fois, des clans, des gens qui sont là de longue date, qui deviennent finalement dans l'église des grands influenceurs et viennent des défis de gérer la justice, de mettre en pratique les Écritures devant des gens avec différentes influences dans l'église, différentes autorités et différents caractères. Et Paul a annoncé à Éphèse, justement, cette église à qui Timothée est pasteur et que Paul a envoyé pour mettre de l'ordre, pour veiller à former les ouvriers, qu'il y aurait aussi des défis à l'église. Et Éphèse a reçu, les anciens, des consignes de la part de Paul au chapitre 20. C'était justement dans Acte chapitre 20, notre dernière retraite pastorale, les versets qu'on a pris le temps de méditer. Une quinzaine de versets que Paul donne aux anciens alors qu'il est en train de passer à Éphèse et qu'il ne peut pas arrêter. Il les rencontre sur un endroit particulier. Il leur donne son cœur, un retour sur son ministère et aussi des consignes face au besoin de prendre soin de l'Église, et qu'il y aurait des loups, qu'il y aurait des défis à relever, il y aurait des décisions pas faciles à prendre, et l'importance du rôle des anciens, de se tenir ensemble, d'être centré sur l'Évangile, d'être centré sur Dieu, d'être en équipe pour relever ce défi de prendre soin de l'Église. Et ça a été une source de grande édification de jaser ensemble lors de la pastorale. Et on trouve au milieu de tout ce fameux petit verset, ou ce que peut-être dans le milieu de tout ça, notre ami Timothée a des problèmes d'estomac et qu'on lui dit, vous connaissez ce verset-là, tout le monde le connaît en général. Hein? Il y en a qui se sont consolés avec un verre de vin. T'entends, tu dis, oh, mais même la Bible dit, hein, un petit verre de vin pour ton estomac. Ah là, je vois bien des sourires. Hein? Je pense qu'il y a bien des pécheurs qui ont pris ces versets hors contexte. Hein? Ah, ah, le rire confirme davantage. Là, hein? On s'incrimine. Hein, c'est verset qui parle justement de ce souci que Paul a pour l'estomac de notre ami Timothée. Est-ce que justement les soucis de l'Église, comme bien les pasteurs peuvent le vivre parfois, ont amené de l'anxiété, hein, ça se jette parfois dans nos intestins tout ça. Est-ce que c'était lié à ça ici, peut-être de l'anxiété qui vivait, des mots quelconques, c'est difficile à dire, beaucoup d'encre a été versée à expliquer des possibilités de ce que ça voulait dire. Mais là tout à coup, Paul prend soin au milieu de cette épître-là, une petite parenthèse au milieu de tout ça, à vouloir prendre soin d'un des anciens qui est là. Il dit, écoute, pour toutes sortes de raisons, il se prive. Est-ce qu'il se privait toujours de vin? Est-ce que c'était pour des raisons aussi très religieuses et que Paul lui dit, écoute, il faut que tu prennes soin de ton esprit. On ne sait pas exactement, mais est-ce qu'il y avait aussi de tout ce stress, peut-être pastoral, qu'il y avait? C'est possible. Le texte ne nous le dit pas, mais pour des raisons médicinales, pour prendre soin, justement, Paul donne un conseil très personnel, très paternel. Prends un peu de vin, t'en as besoin pour ton... C'est médicalement, ça va être bon pour ton ventre, il y a des problèmes, on peut pas tout expliquer, mais il prend soin. Même dans cette petite parenthèse, on a un Paul qui prend soin de son protégé, pour toutes les raisons qui lui sont siennes, pour lesquelles il s'est retiré de prendre aucune goutte d'alcool et que là, ça lui rend pas service. On va lire le texte ensemble et avancer à travers ces différents points et observations sur la question du prendre soin ou du traitement des anciens. Verset 17. Les anciens qui exercent bien la présidence ou la gouvernance méritent double honneur, surtout ceux qui peinent, et le mot ici peine parle vraiment de travail fort, de labourer, qui te met à un épuisement, qui te met à terre, qui peinent au ministère de la parole et de l'enseignement. L'Écriture dit en effet, dans Deutéronome 25:4, tu ne muselleras point le bœuf qui foule le grain. Donc, on n'est pas comparé à des bœufs, mais tout simplement que quand tu travailles de la terre, tu te nourris de la terre, et le principe est appliqué ici au ministère. Et là, on cite maintenant les paroles de Jésus. Et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Luc 10:7. N'accepte pas d'accusation contre un ancien. Et là, si on s'arrêterait là, on serait mal à l'aise. Mais il y a des consignes. C'est correct de le faire, mais que sur la déposition de deux ou trois témoins. Il y a une manière de faire. Encore là, cité dans l'Ancien Testament. Maintenant, ceux qui pêchent, donc on parle dans les anciens ici, dans les leaders, reprends-les en présence de tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'abjure en présence de Dieu et du Christ Jésus, ainsi que des anges élus, C'est la deuxième fois qu'il parle de l'aspect des anges dans ses discours. Observe ses règles avec impartialité, sans rien faire par favoritisme. N'impose pas hâtivement les mains à personne. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes faiblesses. Ici, le mot faiblesse est traduit plusieurs endroits dans les évangiles, par exemple, infirmité. Donc, on parle ici de maladie. Il est des hommes dont les péchés sont manifestes avant même qu'on les juge. Parce qu'on vient de parler de ne pas juger d'avance et le choix d'anciens. Chez d'autres, au contraire, il y en a qui le deviennent qu'après. Les bonnes œuvres, pareillement, sont manifestes, même celles qui ne sont pas et ne peuvent rester cachées. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Parle-nous ce matin. Aide-nous à comprendre, à tirer des leçons pratiques pour notre Église. Et conduis-moi par ton esprit, Seigneur, pour enseigner avec justesse. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et donc, prendre soin des anciens, on va faire quelques observations ce matin sur le traitement des anciens, ou comme traiter ceux qui dirigent dans l'Église. Beaucoup de choses à dire, mais je vais résumer les grandes lignes ici, mais les Écritures traitent avec beaucoup de sérieux le rôle des anciens, et après avoir vu celui de comment on les qualifie, c'est quoi, comment on évalue un ancien au chapitre 3, ses qualifications qui sont liées pas à ses capacités, ses talents avant tout, mais à son caractère chrétien. C'est ce qu'on a vu, le caractère chrétien. Tout comme pour les diacres et diaconesses, ce qui était regardé, c'était pas leur CV de travail qu'ils ont eu, leurs aptitudes de diriger les gens qu'ils ont eu dans les milieux de travail, les talents naturels qu'ils ont, mais bien leur caractère chrétien qui manifeste de la maturité. Et comment ils interagissent avec les gens. Et comment ils interagissent avec les gens selon ce que le Seigneur demande qu'on interagisse les uns avec les autres. Et maintenant qu'on a la question du caractère, comment on interagit avec eux autres dans la réalité? Et il semble ici qu'on parle de plusieurs anciens, et c'est pourquoi ici à l'Église, vous savez, on travaille avec, comme l'Église primitive, avec une équipe d'anciens, et de plus en plus nos églises de l'association baptiste travaillent dans un collège d'anciens, et l'importance de bien choisir ces anciens qui sont présentés à l'Église, l'Église qui a l'occasion de les voir, de les entendre, et puis de reconnaître leur appel et de les nommer comme dirigeant dans l'Église, à travailler en équipe. Et on remarque rapidement que leur rôle ici, on parle de trois rôles qui sont distincts, deux qui semblent connexes. On parle de diriger, de gouverner, et on retrouve cette même capacité qui est importante dans le rôle diaconal et le rôle pastoral au chapitre, c'est mentionné trois fois au chapitre 3, l'aspect de bien gouverner, de bien diriger, pas de bien dominer. Hein? De bien diriger, gouverner, ce qui implique l'idée de connaître le bien des gens et de prendre des décisions pour bien conduire les gens et non dominer sur eux. Puisque, rappelons-nous que les anciens sont nommés par l'Église pour exercer leurs tâches, sont reconnus par l'Église pour les desservir avec les dons que Dieu et l'appel que Dieu a mis sur leur cœur, les capacités que Dieu a données en don. Et on parle aussi de ministère de la parole et de l'enseignement. Certains le voient comme étant un tout, d'autres distinctes. Certains vont parler de l'édification de la parole pour communiquer, encourager, soutenir dans l'édification et l'enseignement plus dans l'instruction. Et aussi, le ministère de la parole et l'enseignement peut être vu aussi comme similaire parfois. Ça dépend des contextes. Et donc, c'est pas très grave à la fin de la journée, la distinction. Mais on voit deux grandes distinctions, celui de la communication et celui de la direction. Et il dit, parmi ceux-ci, il y en a qui vont peut-être l'exercer avec plus de capacité que d'autres, qui se démarquent dans leur capacité. Et que l'Église va appeler à dire, on veut pas que tu partages ton temps, comme d'autres anciens, à partager avec ton travail et le temps que tu as libre pour servir dans l'Église. On veut que tu le fasses uniquement et que tu travailles uniquement pour l'Église. Et ceux-ci sont mis à part pour travailler et être rémunérés par l'Église à plein temps. Il y a exactement 26 ans de ça, j'étais pasteur en formation, j'avais passé par Longueuil et je travaillais comme sauveteur quand j'avais 22 ans. Et je travaillais à Canadian Tires, et c'est dans ce contexte-là que, après avoir fini mes études, je remplaçais souvent des pasteurs qui étaient en vacances, j'enseignais dans des camps de jeunesse, au camp des Bouleaux, au camp Patmos, dans la région de Montréal, beaucoup de prédicateurs que je remplaçais pendant l'été dans plusieurs églises. Dans ce contexte-là, M. Keefe, qui a déjà été pasteur ici il y a plus de 50 ans de cela, m'a contacté pour nous inviter à être considérés comme ouvriers. Julie et moi, on était en fréquentation. Imaginez. Et à 22 ans, et Julie avait 17 ans, elle était à l'école biblique, imaginez, on était invité pour rencontrer un conseil de diacre pour demander de venir à plein temps pour travailler comme assistant pasteur à M. Keefe. Et c'est dans ce contexte-là que je n'avais pas envoyé de CV, je n'avais jamais fait de CV. Simplement, l'Église m'a contacté et m'a invité à venir. On a fait un processus et je ne le recommande pas à 17 et 22 ans là, d'engager comme ça. Mais c'était une autre époque, un autre contexte. Chacun a une histoire unique. Ça a amené des bonnes choses et des défis importants sous notre jeune couple. On s'est mariés à peine un mois et demi après avoir commencé à plein temps, en 98. Et c'est comme ça que l'Église d'Antique nous a invités à aller à plein temps. Et je vous avoue que la première fois que j'ai reçu un salaire pour faire l'œuvre du ministère, peut-être que vous allez vous dire que ce n'était pas grand-chose, j'avais 20 000 $ par année. Mais moi, j'étais heureux. C'est extraordinaire. On me demandait de remplir des feuilles de kilométrage. Ça m'a pris des mois avant de réussir que le trésorier m'amène dans le dos. Il dit, Joël, il faut que tu remplisses des feuilles de kilométrage. Là. Tu te promènes d'un bord puis de l'autre à Montréal. Mais j'étais tellement heureux de pouvoir servir avec Julie. On s'occupait de la jeunesse. On a baptisé beaucoup de jeunes à cette époque-là. Je prêchais à l'église régulièrement, le mercredi, les groupes bibliques dans les cégep, université. C'était un temps d'effervescence. On bougeait beaucoup, Julie et moi. Et aussi, on apprenait à se connaître comme couple. On apprenait à se connaître aussi dans le ministère. Un peu à apprendre en gérant par des excès, des essais et erreurs à travers tout cela. Et c'est pour ça que, rapidement, au bout de quelques années, on a été ravis de l'invitation que Benoît a faite avec Lucien Bédard. Ils sont venus nous chercher pour nous inviter. Ça a pris une deuxième invitation et qu'on est venu ici. Mais c'est comme ça qu'on a été impliqués à venir à plein temps. À un moment donné, l'Église voyait un besoin, voyait quelqu'un disponible, quelqu'un qui avait enseigné. Mon appel avait été reconnu à l'Église de Longueuil où j'avais enseigné. Et là, on m'a invité à venir à plein temps. Et c'est ce que je fais depuis 26 ans. Et c'est un grand privilège. Et ici, on le fait en équipe. On est 5 anciens et on est 2 ouvriers qui sont payés à plein temps sur les 2 anciens, plus un ouvrier qui se prépare à être nommé ancien, qui est aussi à plein temps. Et on travaille en équipe. Et ça fait longtemps qu'on travaille en équipe. Et donc, on se connaît, on travaille dans nos forces. André s'occupe d'un domaine, je s'occupe d'un domaine. On n'est pas en train de fouiner sur l'épaule de l'autre. Il y a de la confiance, chacun avec son domaine de compétences, et qu'on ne cherche pas à contrôler l'autre, de le faire en équipe. Reconnaissant à chacun son appel, et à l'intérieur de l'équipe, c'est à l'équipe que se choisit aussi qui va être le leader du groupe selon ses capacités également. Et donc, c'est dans cette collégialité-là que se fait ce choix. Maintenant, il y a une expression évidemment qui fait titiller, c'est quoi cette question-là de double honneur? Et là, ils vont dire, ah, c'est un double salaire, ou c'est un salaire généreux. Hein? C'est quoi ça veut dire exactement? Double honneur. Et en toute simplicité, je ne vous donne pas toutes les opinions d'un bord puis de l'autre, mais à la fin de la journée, tout ce que ça exprime, c'est ceci. Il y a un honneur d'être nommé par l'Assemblée comme ancien, de un. Et de deux, c'est un honneur que d'en plus à être nommé comme ancien, de dire, on voudrait que tu sois rémunéré, donc honoraire. Hein? Et donc, le double honneur, c'est l'idée d'être nommé comme ancien, mais en plus aussi de dire, on voudrait aussi que tu sois à plein temps et que tu n'aies pas un travail séculier, que tu te consacres entièrement à l'Église. Voilà le double honneur. Ce n'est pas la question de la grosseur de la paye. Évidemment, avec honneur vient l'aspect honoraire. Mais pas tous ont un honoraire et pas tous veulent, le désirent ou se sentent appelés non plus à vivre dans un contexte où ce que tu es rémunéré par l'Église, avec les attentes que cela incombe aussi au niveau des attentes. Évidemment, c'est parce que tout cela vient avec des attentes. Mais notez bien ici que les anciens de l'Église vont choisir en fonction aussi de ceux qui peinent beaucoup, entre autres à l'enseignement. Et donc, c'est dans ce contexte-là que sont choisis certains pour faire cette tâche. Je lis un court paragraphe que j'ai écrit qui résume ici les grandes lignes. Leur rôle était dévoué à la direction Parce qu'évidemment, l'Église a besoin de direction et l'enseignement. Et le rôle était donné par les dons de l'Esprit, que les Écritures donnent à plusieurs endroits la liste des dons, pour choisir et reconnaître cet appel. L'Église a besoin de direction et d'enseignement de la part des anciens. L'un ne peut pas être exempté de l'autre. Certains sont meilleurs dans la direction, certains peuvent être meilleurs dans le fait d'enseigner ou des paroles d'édification, de communication, mais les deux doivent y être. L'Esprit donne les dons d'aide, l'Esprit donne, excusez-moi, les dons d'aide et de gouvernance à l'Église. Et là, je cite un auteur, « Si une Église n'est pas organisée, il y aura une perte d'effort, d'argent et d'opportunités. Si des dirigeants à l'esprit fervent ne supervisent pas les différentes tâches de l'Église locale, alors le chaos règne à la place de l'ordre. Cependant, cette supervision ne doit pas se faire, cette direction-là, dans le dictatoriat, mais d'une façon aimante. Malgré qu'elles doivent être bien gérées, l'Église n'est pas un commerce, n'est pas à la question de profitable, à la productivité. C'est une famille, n'est-ce pas? Et donc, cette direction, elle est familiale, elle est fraternelle. Elle n'est pas pour mettre un accent sur la performance. Et certains d'entre vous avaient été blessés à sentir parfois que vous avez été utilisé, dispensable, placé comme bon voulait. Et non de façon à ce qu'il fait sentir une valeur, une appréciation. Et cela, évidemment, apporte de la honte à l'Évangile. Et donc, je suis conscient ce matin que certains ont des blessures liées à ça, par des abus quelconques. Certains ont de la misère à avoir des doutes, de mettre en pratique certains textes des Écritures par cette blessure, de faire confiance. Et je vous dirais ceci, vous savez, faire confiance à n'importe quel humain, en toute franchise, est difficile. Parce que lorsqu'il y a de l'humain, il y a de l'hommerie. Nécessairement. Et donc, faire confiance dans la vie conjugale à l'autre, faire confiance au travail à un patron, faire confiance à un ancien, à un dirigeant, un diacre dans l'Église, une personne qui supervise le ministère dans lequel je suis, faire confiance à un gouvernement, demande de la foi en Dieu, premièrement. Je peux faire confiance à quelqu'un en autorité, pas parce qu'il est digne de confiance avant tout, mais parce que je fais confiance que Dieu est souverain. Et je fais confiance avec un bénéfice du doute jusqu'à la preuve du contraire. Comment le faire sans être naïf et irresponsable, sans non plus se rester contrôlé par les peurs? Oui? Et seulement Dieu, par la guérison dans nos cœurs, par la confiance dans un Dieu absolument au contrôle de tout, peut me permettre de faire confiance, à être en danger que quelqu'un me trahisse, que ce soit dans mon couple, que ce soit au travail, que ce soit dans ma famille ou dans mon église locale. C'est le même défi de la confiance, quand la confiance a été brisée. Et de ne pas toujours soupçonner le mal, jusqu'à la preuve du contraire. Seulement la guérison de Jésus dans mon cœur, la restauration de mon âme, la confiance dans un Dieu vivant qui est au contrôle de vraiment tout et même les abus de pouvoir peut me permettre de faire confiance malgré tout. Il n'y a pas de solution miracle à la confiance. Évidemment, la confiance se gagne aussi, elle se perd facilement. Les anciens gagnent la confiance du peuple en dirigeant bien, en essayant bien, mais elle se perd facilement aussi par d'abus de pouvoir et des mauvaises décisions qui ne sont pas centrées sur l'Évangile et sur prendre soin des gens. Parfois aussi, c'est dur parce qu'il y a des décisions difficiles à prendre comme anciens, qui ne sont pas populaires, des positions doctrinales qui sont contre-courant de certains dans l'Église, des positions du monde que l'Église prend en position, puis que certains, mais il me semble qu'on pourrait plus l'Église être marketing, là, puis, tu sais, là, assouplir. Puis là, les anciens disent, non, les Écritures disent ça, on va le faire avec grâce et vérité, mais les Écritures disent ça. Et là, certains peuvent être insatisfaits. Des disciplines d'Église peuvent amener des frustrations, ou ce que les anciens semblent avoir fait avec dureté, ou là semblent avoir fait avec trop de légèreté ou trop de gentillesse. Puis évidemment, on ne connaît pas tous les détails souvent, parce qu'on n'expose pas tous les détails. Toutes sortes de choses qui sont faciles à briser, le lien de confiance. J'avais telle attente, puis il n'était pas venu. J'avais telle attente qu'il ferait ça ou ça, que leur couple... Et souvent, vous savez, je parle des pasteurs, mais soyons bien honnêtes aussi, là, parlons des couples pastorales. Parce que la plupart des couples dans le ministère servent ensemble. La femme ne porte pas le nom de pasteur, évidemment. Les Écritures donnent ce rôle à l'homme. Mais on travaille en équipe. Vous n'avez pas Joël sans Julie. Et vous n'avez pas Julie sans Joël. Et si Joël est encore là, c'est parce qu'il y a une Julie. On travaille en équipe. Tu ne peux pas être dans le ministère si on n'est pas en équipe, en train de tirer sur l'un ou sur l'autre, de freiner l'autre, d'être en train de chialer l'autre de ci ou de ça dans le ministère, parce qu'il y a un cœur mutuel qui doit être là pour le faire. Et là, les attentes sont souvent sur le couple pastoral, sur l'homme et la femme, avec des attentes différentes. Et là, je suis déçu. Et là, il y a une question d'attente aussi. Pourquoi je suis déçu? Et donc, il y a du potentiel d'être déçu avec les pasteurs. Il y en a plein. Plein de possibilités. Et là, je vais revenir à moi-même. Seigneur, est-ce que c'est légitime ou pas? Et si oui ou sinon, pourquoi? Qu'est-ce que ça réveille dans mon cœur? C'est-tu un souvenir, un bris de confiance, etc.? Il y a plein de choses que ces situations font remonter de notre expérience passée, de blessures passées que ça réveille. Et ils sont réels. Et là, il ne faut pas les enfouir puis l'en faire abnégation, surtout pas. Non, laissez-les sortir. Parlez-en. Allez en parler avec un ancien. Je veux que tu saches, j'ai de la misère à te faire confiance. Ah oui, pourquoi? À cause de j'ai vécu ça, 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 ça. Et là, ou parler avec un membre de confiance, puis d'en parler, puis de prier ensemble que ça guérisse ton cœur. Te rendre libre. Et non, toujours en appréhension. Et vice-versa, pour nous, les anciens, évidemment, d'être sensibles, d'être à l'écoute et de garder ce lien de confiance là, qui se fait mutuellement. Ça se fait à deux. Il y aurait tant de choses à dire. Et je pense quand même les grandes lignes ont été dites. Et Paul ici va utiliser le principe de rémunération avec quelques références, évidemment. Alors, les qualifications pour la rémunération, d'être bon, d'être doué dans le don spirituel de direction et d'enseignement qui se démarquent et qui sont choisis pour cela, les raisons liées au don. Et là, ici, les différents textes. Alors, évidemment, il cite ici Deutéronome 24, mais le texte qui en parle encore plus, que Paul parle, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 9, je ne les lirai pas, où ce qui développe encore plus la citation de ce texte de Deutéronome. Et évidemment, il cite Luc, et on retrouve cette référence aussi dans Matthieu. Et donc, il est en train de mettre sur un pied d'égalité aussi une référence de l'Ancien Testament et Jésus. Pourquoi on croit cela? Ben, en fait, l'Ancien Testament, la loi l'enseigne, et Jésus a dit la même chose. Et tout comme dans le prochain texte, on va remarquer, les deux vérités reviennent. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit et qu'est-ce que Jésus aussi a également dit et approuvé également comme principe sur le prochain point qu'on va regarder ensemble. Je termine en lisant sur ce point-ci. Les points prochains vont être plus courts, mais c'est le plus gros, le plus long. Le défunt pasteur Wiersbe a fait un beau commentaire ici. Il dit, si les pasteurs nourrissent et conduisent fidèlement le peuple, alors l'Église doit aussi se montrer fidèle à leur égard en les payant correctement. Double honneur peut être traduit par salaire généreux selon certains, mais l'idée ici est d'honoraire, tout simplement. Le plan de Dieu prévoit que les besoins de ses serviteurs soient pris en compte par leur Église locale. Dieu bénira les Églises qui sont fidèles à l'égard de ses serviteurs. Remarquez bien, ses serviteurs. Parce que les anciens sont vos serviteurs. Une Église qui ne l'est pas et qui ne couvre pas ses besoins de son pasteur rend un pauvre témoignage. Et Dieu saura trouver des chemins pour faire cheminer cette situation. Il peut y pourvoir par d'autres moyens, alors l'Église perdra sa bénédiction à certains égards. Il peut aussi déplacer ce serviteur vers un autre lieu de service. Le revers de la médaille est que le pasteur ne doit jamais non plus travailler uniquement pour l'argent. Négocier l'Église pour avoir une meilleure situation salariale, mais chercher avant tout la volonté de Dieu. Est-ce que je suis là où Dieu me veut? Et non, est-ce que les conditions me satisfont? Il est mauvais aussi pour le pasteur d'étaler dans ses sermons, par exemple, ses besoins financiers pour chercher la pitié, l'espoir d'obtenir des gains de quelconque financier de la part des membres. Mais l'Écriture dit ceci dans Proverbes, chapitre 3, verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. » C'est une manière d'honorer Dieu, les finances. « Honore l'Éternel de ton bien et les prémices de tout ton revenu. » Et donc, le premier aspect, c'est l'aspect de rémunération. La deuxième, dans le traitement, c'est la question d'accusation contre les anciens. Évidemment, puisque j'ai déjà parlé de cela, il y a plusieurs situations possibles de litige. C'est facile dans l'Église de différents doctrinales, d'opinions sur des disciplines, d'opinions sur des décisions, sur l'horaire, sur les prédicateurs, sur les ministères dans l'Église, et d'avoir des opinions différentes. Et c'est normal. On est une famille. Qui a une famille que tout le monde pense pareil? C'est normal qu'on pense pas pareil. Et Dieu merci qu'on pense pas toutes pareilles. On arrive avec une variété d'idées, de dons, d'expériences qu'on met en commun et que là, on peut compléter le bagage d'expérience les uns avec les autres et travailler ensemble. Et donc, c'est nécessaire. Mais donc aussi, ça veut dire qu'on va avoir des opinions différentes. Comment je vais gérer nos opinions différentes? Est-ce qu'on a une opinion différente fait que l'un ou l'autre a tort ou on peut avoir juste deux différentes opinions et se respecter dans notre différent plutôt que d'imposer mon opinion? Et donc, il y a deux extrêmes, évidemment, ici. Lorsqu'il y a une trop grande latitude dans la question de discipline, ou d'exercer un jugement dans l'Église, il peut y avoir de la part de l'Église trop d'indulgence, de trop tolérer l'intolérable, et ça devient le chaos, ou le deuxième de devenir des policiers intransigeants. Et l'équilibre se trouve au milieu lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit. Et que ce n'est pas dans notre chair qu'on le fait, mais que l'Esprit de Dieu conduit nos cœurs. Les Écritures offrent plusieurs consignes, et beaucoup de passages du Nouveau Testament particulièrement nous donnent des consignes sur la discipline que je ne regardais pas avec vous. Mais pour Dieu, il y a un besoin de discipline dans l'Église, et même envers un ancien, s'il y a des accusations, il y a une manière de faire, tout comme chaque citoyen doit avoir un procès et des accusations qui sont faites avec justice, ainsi en est-il aussi pour l'ancien, dont la réputation est fragile. Très fragile. Ça prend un rien pour briser la réputation d'une personne. Et pourtant, c'est tellement long à construire une bonne réputation. Gare à nous d'être trop hâtifs de juger lorsqu'on n'a pas toutes les informations en main et de faire les choses en étapes. Et le but ici, c'est de placer des règles pour protéger aussi. Et donc, selon Moïse, on voit, évidemment, rempli du Saint-Esprit, il y a des règles et il faut deux ou trois témoins. Et Jésus va réitérer cette même vérité plus d'une fois, on va le retrouver par Paul aussi mentionné dans Corinthiens, où cette vérité est importante, tu ne fais pas juste prendre une accusation. Il doit y avoir plus qu'une accusation, ça doit être vérifié. Et ça doit être bien fait d'une façon à rétablir. Le but d'une discipline ou de jugement d'une faute est la restauration, sauver, non repousser, d'aimer avec tendresse, et fait avec tendresse. Le verbe utilisé dans Galates par Paul pour parler de rétablir quelqu'un, le restaurer, c'est un verbe qui parle de ressouder un os brisé. C'est ça, restaurer. Ressouder un os. Donc, on veut restaurer un frère qui a péché, qu'on l'a repris, qui est repentant. On veut le restaurer, c'est le but. Vous pouvez vous imaginer donc la dose de patience que ça demande et de tendresse pour accompagner quelqu'un dans ce processus. En même temps, nous sommes vulnérables et il est tellement facile. Je me rappelle, il y a de cela bien longtemps, 20 ans, il y avait un couple qui nous avait attaqué, moi et Julie, d'avoir été inappropriés. Je me rappelle, on avait rencontré l'autre pasteur, et là, un couple témoin, et là, finalement, le couple qui disait ça avait été vérifié pour, finalement, il n'avait pas aimé la manière dont on les avait repris. Il n'avait pas aimé qu'on avait été franc, puis on avait touché à des cordes sensibles, mais pas été inappropriés. Et là, finalement, ils se sont repentis. Mais ils avaient accusé. Mais là, finalement, rendu devant deux, trois témoins, et pour valider si tout ça tenait debout, et là, tout à coup, mais ils ont eu une belle attitude. Et notre relation n'a pas été entachée. Au contraire, la possibilité de conflit, d'un fossé qui s'était mis devant nous parce qu'on l'avait adressé bibliquement, il s'était construit un pont encore plus grand avec eux. Parce qu'on avait résolu les enjeux du cœur, on avait parlé humblement, simplement, les deux parties, pour régler les choses. C'était il y a plus de deux décennies. Et pourtant, je m'en rappelle comme hier. Attention, les accusations criminelles. Non, ce n'est pas à l'Église de toucher les accusations criminelles, n'est-ce pas? S'il y a fraude financière, ce n'est pas à l'Église de juste en catimini cacher ça. Non, il y a une fraude financière, c'est une question de criminelle. S'il y a abus sexuels, ce n'est pas notre département comme Église de juger ce que la loi appartient à la loi. C'est-à-dire, donne à Dieu ce qui est à Dieu, donne à César ce qui est à César. Et chacun a des parts d'autorité. Et donc ici, quand on parle ici de résoudre ces problèmes-là, l'Église peut-être va faire un premier pas, mais s'il y a un domaine du criminel, ça n'appartient pas à l'Église. Ça appartient à la loi. N'est-ce pas? Et ça, c'est important comme nuance. L'Église n'a pas à aller juger là, et après ça, cacher des choses. Et c'est arrivé dans certaines églises. Par ignorance, par naïveté de traiter des abus, de traiter des pasteurs, et que tout ça a été caché et c'est sorti plus tard avec 20 fois plus de dommages dans l'Église. Et c'est triste. C'est triste. Et donc, il faut distinguer ici qu'on ne parle pas de questions de criminels lorsqu'on en parle. Et c'est souvent lié à la doctrine, c'est souvent lié au caractère, c'est souvent lié au moral. Mais quand on touche le criminel, évidemment, ce n'est pas notre département, on donne ça à la loi. S'il abuse dans sa famille, c'est à la loi de s'occuper de cette question-là. L'Église va peut-être faire les premiers pas pour découvrir, vérifier, mais ultimement, ce n'est pas à l'Église de juger de cela. Et donc, attention aux rumeurs aussi. Vous savez, Shinicky est bien connu. On a lu ses livres, sa conversion, son impact au Québec. Et pourtant, tout le monde a entendu parler, plus de 160 ans plus tard, de la rumeur de deux femmes avec qui il aurait eu des relations avant, quand il était curé. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? J'ai aucune idée. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que je le sais? Je ne sais pas. Et pourtant, ça fait 160 ans passés. Et la rumeur reste encore. C'est pas pour perpétuer la rumeur que je vous le donne en exemple. Notre frère Shinicky est avec Dieu, a amené tellement d'âmes au Seigneur, il est en paix. Mais l'exemple peut nous servir. Comment c'est dommageable. Vous voyez? Lui, sa réputation est toute réglée, il est avec son Sauveur. Comblé de 40 ans d'années à servir le Seigneur jusqu'en 1899. À faire des croisades au Québec. Et pourtant, cette vieille histoire, avant sa conversion, alors qu'il était curé, la réputation est si fragile. Si fragile, et c'est pour ça, sur la déposition de deux ou trois, et si j'entends quelque chose, si c'est pas de mes affaires, je me mêle de mes affaires. Ailleurs, ici, si j'ai affaire des devoirs, vérifier, d'aller voir directement. Mais attention. Certains diront, oh, mais tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Ben, peut-être c'est un bel adage pour les pompiers. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas dans l'Église et dans les familles. Que parce que tu as entendu quelque chose, nécessairement il y a quelque chose. Non, pas nécessairement, même si c'est arrivé souvent. Et finalement, les fausses accusations. Vous savez, ça me fait penser qu'aujourd'hui, on est le 2 juin. Et dans mes lectures cette semaine, je suis tombé là-dessus, mais le 2 juin était en l'an 57... de notre ère, le 2 juin. C'était une journée particulière. C'était le jour de la Pentecôte chez les Juifs. Ça se passe dans Actes chapitre 21. Et c'était le jour que Paul se présente, après s'avoir préparé, à la Pentecôte au temple à Jérusalem, en 57 de notre ère. C'est un 2 juin, comme aujourd'hui. Pourquoi je le cite? Parce que Paul a été accusé, faussement, cette journée-là. Et ça fait un tollé, si vous vous rappelez, la fin du chapitre 21 et le chapitre 22. Et il va se défendre. Est-ce qu'on l'écoutait? Non, c'était bâclé d'avance comme le procès de Jésus. Que le Seigneur nous protège comme chrétiens, de bâcler d'avance. Et de ne pas pratiquer les Écritures et de faire ce genre de situation-là. La deuxième, il y a une précaution qui s'ajoute à cela maintenant. Alors, une deuxième précaution est ajoutée à la question de la discipline. Paul demande à Timothée de respecter, toujours d'agir ouvertement et de manière correcte envers les gens. La politique et la clandestinité pratiquées dans le monde n'a rien à faire dans l'Église. J'ai parlé ouvertement, dit Jésus dans l'Évangile. Si un responsable est coupable et qu'il doit alors être réprimandé devant tous, certains vont dire, c'est juste les conducteurs, c'est l'Église. Il y a les deux, au verset 20. Il lui sera donc donné l'occasion de se repentir, de reconnaître et aussi donc d'être pardonné. Une fois que le pardon est accordé, l'affaire est close. On n'y reviendra plus jamais. Mais le bris de confiance demande quand même, selon les circonstances et selon la faute, de regagner aussi la confiance. Et donc, il y a un besoin ici de reconnaître les fautes et que lorsqu'il y a une faute qui est faite comme ancien, et qui a un besoin, mais ça doit être fait aussi publiquement. Il y a, avec la responsabilité d'être prédicateur, d'être devant tous, il y a aussi une responsabilité publique. Je me rappelle d'avoir été obligé de faire ça il y a 24 ans de ça. C'était très difficile. Un 1er janvier, un 2 janvier, mais le 1er janvier, je l'apprenais, on devait faire une réunion de membres le lendemain, de devoir démettre un ancien pour des raisons d'immoralité. C'était un collègue extraordinaire, maîtrise en théologie, il enseignait bien, j'aspirais de travailler avec lui, M. Keefe partait, Et là, je me retrouvais avec lui, un autre ancien, puis comme jeune pasteur, c'était l'idéal pour moi. Et là, la déception de la situation morale qui s'était avérée, j'oublie comment on l'avait découvert, je n'avais pas eu à le gérer, c'était le pasteur principal avec l'épouse. Et tout ça est sorti, et que de larmes, cette situation-là a amené dans l'Église, mais dans ma vie personnelle. Ça a été très difficile. Et on l'a eu à le démettre comme ancien, mais pas le sortir de l'Église, puisqu'il était repentant, reconnaissait ses fautes, de demander pardon devant l'Église. C'était beau de voir l'humilité dans laquelle il avait fait. Mais que ça avait été difficile. Mais il acceptait de pratiquer les Écritures comme enseignant et de confesser publiquement et de travailler sur son couple. Ça a été un long processus après. Ça n'a pas abouti là où ce qu'on aurait aimé, mais il avait bien fait cela. Mais ça avait été fait publiquement. Il avait accepté de prendre son rôle comme ancien, lui qui avait été pasteur à plein temps auparavant, et là qui ne l'était plus pour des raisons justement de cœur. Mais ce n'est pas une chose facile. Et on ne s'amuse pas à faire cela. Il faut prendre notre temps pour bien faire les choses. Mais ça vient aussi avec cet honneur d'enseigner. Et ce rôle, il y a un attachement de responsabilité qu'on mentionnera encore plus loin. Et donc, il y a une responsabilité de s'il y a une persévérance dans le péché. Ici, l'idée, s'il pêche et il continue de pécher, là, il y a une discipline. Parce que s'il a arrêté de pécher, mais il a été démis de son rôle par le bris de confiance et le besoin de travailler dans un domaine de sa vie qui est extrêmement important et dans lequel il avait tombé et plus d'une fois. Et il le reconnaissait, il était de tout cœur à pratiquer ce qu'il devait faire. Mais il faut reprendre, et il y a des moments où il faut faire cela, et si c'est utile, parce que ça va aussi enseigner de prendre les choses au sérieux, d'où le mot crainte. Ah, mais c'est pas bon d'avoir faire peur aux gens. L'idée, c'est pas faire peur aux gens, c'est montrer que c'est sérieux, qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. Et donc, l'attitude que Dieu nous invite aussi, hein, avec crainte et tremblement, c'est une attitude qui est donnée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et entre autres dans le livre de Galates, de travailler notre salut, à part pour gagner notre ciel. Au contraire, on l'a reçu par le Seigneur, mais de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ça fait partie de l'attitude du croyant dans lequel on va grandir, la crainte de Dieu, le respect de Dieu pour avancer. Et donc, cette attitude est nécessaire. Et donc, de voir ça, de même dire, hey, OK, c'est sérieux, là. C'est vraiment sérieux lorsque l'Église doit faire une discipline. Notre moralité, ta moralité affecte l'Église de Christ. On est une famille. Nos choix, nos doctrines nous affectent les uns les autres. Le fait qu'on vive notre vie honnêtement selon la loi ou malhonnêtement affecte les uns les autres. Le témoignage de l'Église, on est tous dans la même famille. Il n'y a pas de « Ah, c'est ma vie privée, ce n'est pas de tes affaires. » Non, c'est pas ça la famille. Même si on aime toutes et luttons tous avec l'idée d'un jardin secret, ce n'est pas de Dieu. Ça ne nous aide pas, ça nous nuit énormément. Et ça n'aide pas la progression de l'Évangile, la progression de l'influence de l'Église de Christ dans une communauté. Puis, pas de favoritisme. Je sais, certainement, certains ont vécu du favoritisme familial, une famille d'influence dans l'Église. On sait bien, il fait partie de cette famille-là, fait que là, eux autres, c'est plus toléré. On sait bien, cette famille-là, ils cachent telle information. On sait bien, et ça peut être dans l'Église, comme dans le conseil, le favoritisme. Et l'idée, c'est d'avoir une idée préconçue avant. Favorable à la victime ou favorable au coupable. Hein? D'un bord ou de l'autre. D'avoir une idée préconçue, de favoriser l'un à l'insu de l'autre. Avoir une idée préconçue. Avant d'avoir les faits, avant de pouvoir juger avec exactitude. C'est ce que les deux mots ici soulignent. Se faire des idées d'avance et qui finalement viennent miner le jugement. Et là, les gens partent avec ce sentiment. Bon, c'est bien, hein, dans l'Église, hein, quand tu es un ancien, tu es protégé. Ou quand tu es dans telle famille, ou bien quand tu as un ministère, ou bien quand tu as ça. Et vous n'avez entendu parler certainement. Et dans l'Église, pas de favoritisme. Ça écœure le monde. Il n'y a pas d'avantagé sur l'un ou sur l'autre, par le statut, par l'ethnicité, par l'expérience de travail seulement. Non, on est une famille. Et ici, c'est la favoritisme face à la justice, à reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est coupable, ce qui ne l'est pas. Et donc, la manière de faire le jugement est vraiment importante. Et donc, ici, un avertissement important. Et ici, c'est intéressant de voir le motif. Le motif est lié. Pourquoi? Regardez bien dans le texte, verset 21. parce qu'il y a quelqu'un qui regarde. Je vous abjure de ne pas tomber là-dedans. Devant Dieu et Jésus-Christ, devant même les anges élus, c'est la deuxième fois qu'il parle des anges, les anges élus, pas les déchus, c'est pour ça qu'il parle de ceux qui sont choisis et qui n'ont pas été avec Satan, qui ne sont pas rebellés et qui sont témoins et qui nous regardent, nous dit Hébreux également, qui observent les croyants. Mais Dieu et Jésus-Christ, et Dieu ici, vous remarquez bien, il n'y a pas d'article en avant, c'est comme si Dieu, Jésus, la même personne ici, dans la manière dont c'est écrit. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont présents et on veut les honorer. Les anges regardent, observent comment le corps de Christ se comporte pour adorer Dieu, pour exprimer la priorité de Dieu dans nos vies et la grâce de Dieu. Et c'est ça le motif ultime. Dans tout ce que je fais, Dieu me voit, Dieu te voit. La partie, la zone secrète de ta vie, ta moralité, ta gestion des finances, ton honnêteté, dire la vérité ou pas, ce que tu penses sur les autres, tout ça est là. Et Dieu nous est témoin. L'autre exhortation, c'est la nomination n'a jamais, jamais nommé des anciens ou d'imposer les mains. Et quand il parle d'imposition des mains, c'est de reconnaître un ancien. On s'identifie, on valide, on approuve. C'est ce qui est arrivé il y a plus de 20 ans maintenant où j'ai été ordonné ici. Officiellement par l'Église, avec des anciens, avec des pasteurs de l'extérieur également, après avoir été éprouvé un nombre de temps, après avoir été éprouvé dans ma doctrine, mon témoignage, mon appel. Et donc, l'idée d'imposer les mains, c'est de reconnaître un autre ancien. Nomme-les pas trop vite. Sois pas hâtif. Prends ton temps, parce que c'est sérieux comme rôle. On ne place pas n'importe qui. Et on doit donner le temps suffisant, il va le développer un petit peu plus après également cette question-là du choix et de ne pas le faire de manière précipitée. Et là, c'est là qu'il fait sa parenthèse, où on voit sa préoccupation pour Paul. Et dans les versets qui vont suivre, les versets, et je ne le commenterai pas beaucoup parce qu'on l'a déjà mentionné, le verset 23, et tout ce que ça montre ici dans tout cela, c'est prendre soin d'un ancien. Il y a un ancien qui a un problème d'estomac et on voit Paul qui en prend soin. Mais les versets 24 et 25 ajoutent la notion de pourquoi c'est important le temps. Parce que ça prend du temps pour mettre à l'épreuve un candidat, pour voir ce qu'il y a vraiment dans le ventre, pour voir s'il y a des choses cachées dans sa vie. De faire les choses précipitées nous donne juste une décision en fonction de l'apparence. C'est pour ça, normalement, qu'on n'engage pas un pasteur à plein temps à 22 ans. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Ça a été le cas, à la grâce de Dieu. Et ça vient avec des bons et des mauvais côtés. Ils ont dû endurer des prédications avec beaucoup moins d'expérience, avec beaucoup moins de maturité. Mais bon, ça fait partie du processus de former un ouvrier aussi pour prendre la maturité. Mais ça donnait aussi des conseils de gars de 22 ans que je ne pouvais pas donner des conseils de gars de 48 ans. C'est comme ça. Et quand je suis parti de l'église d'Antique, j'étais devant, à 25 ans, avec mon épouse, constater qu'il y avait besoin d'un pasteur de plus d'expérience. Mon salaire bloquait la venue d'un pasteur principal d'expérience. Et j'ai décidé de prendre, avec le sentiment vraiment que Dieu dirigeait dans ce sens-là, Julie et moi, on était en paix, de quitter pour laisser la place à un salaire pour un pasteur d'expérience pour l'Église, parce que les gens voyaient baptiser des jeunes, mais ne voyaient pas que c'est le fun, ça, mais vous avez besoin d'un pasteur d'expérience pour vous enseigner, pour vous conseiller comme couple. On n'avait pas encore d'enfants, on a commencé les enfants dans notre première année ici. Et donc, de travailler en équipe était beaucoup plus favorable. Mais il faut donner du temps pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Le caractère sort avec le temps. Les choses cachées, ils sortent avec... Les bonnes œuvres aussi qu'on peut garder discrètement, le temps les font sortir également et confirme l'appel. Et donc, l'importance de ne pas être précipité, de ne pas remplir une chaise. « Ah, il faut qu'on nomme deux anciens, là, parce qu'il y en a deux qui sont tombés à la retraite. » Oui, mais y a-tu deux anciens qui sont prêts à être nommés? Est-ce qu'on en avait en préparation? Est-ce qu'il y en a qui auraient l'unanimité chez les frères et les sœurs qui ont été éprouvés avec le temps? Pas juste remplir des chaises. « Ah, mais lui, il est bonhomme d'affaires. » Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est une église. On ne veut pas des administrateurs. Sinon, on va prendre les businessmen de l'église, les businesswomen de l'église. Ce n'est pas ça l'Église, c'est une famille. Et donc, le besoin de donner le temps. Je vais terminer avec ce paragraphe et prendre deux, trois questions. Seul Dieu connaît le cœur de chacun. L'Église a besoin de sagesse spirituelle afin d'être guidée quand elle choisit ses responsables. Il est dangereux d'agir avec impulsivité, notamment dans la confiance dans quelqu'un qui serait aussi un nouveau chrétien depuis juste quelques années, un nouveau membre à qui on commence à donner des responsabilités et éprouver sa fidélité. Les péchés de certaines personnes sont visibles, mais il existe des gens capables de dissimuler leurs péchés, leur contrôle, leur immoralité, etc., avant qu'ils se livrent à jour. Bien que les œuvres bonnes des croyants confirment qu'ils ne soient pas pratiquées pour être mises en évidence, elles doivent pourtant être visibles aussi. En d'autres termes, l'Église doit minutieusement scruter la vie d'éventuels responsables pour s'assurer qu'il n'y a rien de vraiment mauvais en eux qui empêcherait leur reconnaissance. Ordonner un ancien qui mène une vie de péché, c'est pratiquer, c'est participer finalement à son péché. Si déjà le fait de saluer un hérétique nous rend participants de mauvaises actions dans 2 Jean, lorsqu'on parle d'un hérétique non repentant dans 2 Jean 10, combien plus le coupable que nous ordonnons si nous le faisons à la légère et non en conformité avec les Écritures. Et je cite ici un pasteur d'expérience. Aucun pasteur, aucun membre d'Église n'est parfait, frères et sœurs, personne. Mais cela ne doit pas nous empêcher de tendre vers l'image de Christ. Le rayonnement d'une Église locale croît et chute selon les qualités aussi de ses responsables. Une direction fervente signifie bénédiction de Dieu, et c'est bien de cela que nous avons besoin et que nous voulons. Je termine avec ce commentaire que j'ai pris d'un pasteur. Attention, ici, pas juste avec les pasteurs, pas juste avec les anciens, mais de manière générale dans nos vies aussi. Pratiquons les mêmes principes appliqués à nos vies. Attention, parfois les problèmes arrivent simplement... Parfois, les problèmes arrivent simplement car nous croyons quelque chose que nous ne pouvons pas vérifier. Et on se fait des idées. Ou deux, on se démontre partial dans une situation. Au travail, à la maison, avec un enfant. Ou d'autres problèmes peuvent arriver parce que nous prenons des décisions trop hâtives, avec un manque de temps pour évaluer. Alors qu'on n'est pas toujours obligé de prendre une décision précipitée. Ce n'est pas tous les membres de l'Église qui ont un caractère aussi bon que leur réputation. Alors faisons attention. Ce n'est pas une question, c'est une information du trésorier qui mentionne de remercier le Seigneur pour nos offrandes d'amour jusqu'à présent, la semaine dernière et cette semaine. On est déjà rendu on est à 9962, notre objectif est de 12 200. Il reste tout le mois prochain en passant pour compléter face à l'offrande d'amour. Et donc, je vous donne cette information pour vous le communiquer. J'aimerais juste vous lire ce verset-là avant de prier, de compléter, à moins qu'il y ait d'autres questions. Et c'est le texte qui m'est venu à l'esprit parce que j'ai eu à le côtoyer pendant la préparation. Et je dirais ici que cela communique une responsabilité partagée entre les anciens et l'Assemblée. Et voici ce que le texte nous dit dans Hébreux chapitre 13, versets 17 à 18. « Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction. » Ouais, c'est sûr, c'est dur, là. Pasteur qui lit ça en plus. Ça va être populaire, hein? Mais il y a un quart. C'est important, le quart. Car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous, puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Rappelez-vous de ça. Et nous, on se rappelle de ça. On va devoir rendre des comptes pour ce qu'on a enseigné. Rendre des comptes pour nos décisions sur l'attitude dans laquelle on a pris soin de vous. On a des comptes à rendre. Ça fait peur, les amis. Je vais vous le dire. Ça fait que quand tu fais une discipline, tu prends une grosse décision, tu trembles comme ancien dans ton cœur et tu es en train de prier ensemble pour avoir la paix de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on a prié ensemble? Est-ce qu'on est unis là-dessus? Parce qu'on va rendre des comptes. Oui, on est sauvés par grâce. Le Seigneur est gracieux, mais on est des petits bergers sous le grand berger. Et on doit y répondre, être à son écoute. Puisqu'ils s'acquitteront de leur tâche, qu'ils s'acquittent de leur tâche, excusez-moi, avec joie, et non dans la tristesse et la peine. S'ils ne seraient pas bien traités. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage qu'un ouvrier, dans le fond, parmi nous, serve dans la peine parce qu'on est dur avec lui, qu'on ne le traite pas bien, etc. Et là, il ajoute un autre conseil. Priez pour nous. Certes, nous avons l'assurance d'avoir une conscience pure, puisque notre seul désir et notre ferme résolution est de bien nous conduire en toute occasion. Il y a une redevabilité que nous avons envers vous, envers Dieu, et vice-versa aussi. Le leadership, ça se fait à deux. Il faut du leadership et il faut un appui du leadership et travailler ensemble. Un ne peut pas aller sans l'autre. Mais un mauvais affecte l'autre. Un mauvais affecte l'autre, d'un bord comme de l'autre. Et c'est en équipe que le Seigneur veut qu'on fasse cela. Mais le reste des questions, je ne pourrais pas l'adresser ce matin. Vous pourrez venir me voir en privé. Certaines questions ne vont pas nécessairement être pour l'Assemblée. On va prier ensemble. Père Céleste, c'est ta parole qu'on vient de lire. Paul, rempli du Saint-Esprit, Seigneur, a été conduit par toi pour enseigner ce Timothée, ce jeune pasteur, dans la trentaine probablement, qui avait une grande tâche dans une église pas facile, avec des gens beaucoup plus âgés que lui, à mettre de l'ordre dans l'église. Et Seigneur, tu l'as rempli de ton esprit pour que cette lettre nous soit préservée et qu'elle nous serve d'enseignement encore aujourd'hui. Plus de 1960 ans plus tard. On peut la lire. Merci, Seigneur, de cette instruction qui nous guide, ta parole, qui se réfère à l'Ancien Testament, qui se réfère à Jésus. Parce qu'ultimement, Seigneur, c'est l'Église de Jésus-Christ. Tu es le centre, Seigneur, de cette Église. C'est toi qui nous as sauvés. Si nous pouvons chanter les grâces, c'est parce que tu nous as graciés. Si nous sommes heureux, c'est parce que tu nous as libérés. Si nous avons de l'avenir, c'est parce que tu nous as promis la résurrection et la vie. Et tu nous as promis la vie en abondance en Jésus-Christ. Et c'est nous, ton Église, quel privilège. Ô Seigneur, continue, Seigneur, de protéger ton Église à travers le Québec, mais ton Église à Trois-Rivières. Les assemblées à Trois-Rivières, notre Église, Seigneur, protège le conseil d'anciens, garde-le uni, attaché à ta parole, garde-le aimant de ton peuple, garde-le respectueux de son Dieu. Garde-le, Seigneur, émerveillé de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est le corps de Christ qui a payé cher et pour qui ce troupeau est précieux. Seigneur, tu n'as pas regardé à la dépense pour établir ta justice dans l'Église, pour ramener, Seigneur, la possibilité du salut. Tu as donné ton Fils au Père Céleste. Et nous sommes reconnaissants qu'il ait la première place parmi nous, comme peuple, comme famille. Qu'il ait la première place dans nos pensées, dans nos actions, dans nos choix de ministère, parmi les anciens, parmi chaque membre de l'Église et adhérent, dans chaque couple. Dans chaque homme et femme qui travaille dans cette ville, que tu veux qu'il ait un témoignage pour toi. Que nous travaillons, Seigneur, ensemble, comme peuple de Dieu, d'une façon qui t'honore. Et que ce soit la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui avance, parce que c'est ordonné ici. Parce que Jésus-Christ est au centre et que Jésus-Christ rayonne dans notre ville. Rayonne dans nos missionnaires à travers le monde entier. Seigneur, c'est notre prière. Sonde nos cœurs également ce matin. Parce qu'il y a des blessures dans nos cœurs. Des blessures de mauvais leaders qui nous ont peinés, qui nous ont brisés, qui nous ont enlevé notre naïveté. Et c'est dur à guérir, Seigneur. On doit être honnête. Quand que le bris de confiance est là, c'est dur là, le regagner. C'est dur refaire confiance. Accorde-nous de la guérison, Seigneur. Il y a qui te prient présentement, Seigneur, pour ça. Qui ont des souvenirs difficiles. Et Seigneur, on ne peut pas raisonner tout cela. On peut en parler, mais ultimement, il faut venir à toi. Et c'est au pied ce matin de la croix qu'on veut déposer ces blessures. Oh, fais de la guérison, Seigneur, dans nos cœurs. Que le sang de Jésus-Christ qui a couvert nos péchés puisse continuer, Seigneur, à œuvrer, à faire de la guérison quotidienne dans nos cœurs pour accorder la grâce à d'autres comme il m'a été accordé grâce, sans mérite, et que j'en suis reconnaissant, Seigneur. Fais-le parmi nous, Seigneur. Et je te le demande dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen.